Café et Chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Jules Lemaire, président de Rêve FM, la radio de l'ESSEC, et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre Tour de France en partenariat avec Radio KPMG. Après l'interview que nous avons réalisée à la Savonnerie à Marseille, c'est à Toulon que nous sommes aujourd'hui, et plus particulièrement sur la base navale de la Marine nationale. Nous avons la chance de recevoir à notre micro le capitaine de frégate Pierre-Louis Josselin, porte-parole de la préfecture maritime méditerranée et responsable communication de la Marine à Toulon. Créée sous le règne du roi Henri IV, c'est la principale base navale française, siège du premier port de défense d'Europe qui abrite la majeure partie de la force d'action navale. Alors, ma première question est d'ordre général. Il y a plusieurs composantes dans l'armée française, terre, air, marine, qui contribuent chacune aux enjeux de sécurité et de souveraineté de la nation, mais qui font face à des défis qui leur sont propres. Nous souhaiterions savoir quels sont ceux auxquels la Marine nationale fait face dans le contexte géopolitique actuel.
Alors, tout d'abord, pour commencer, la Marine nationale, en fait, au-delà des autres composantes, la Marine nationale, on a l'armée de terre, l'armée de l'air, et c'est pas l'armée de mer, c'est la Marine nationale, parce qu'on a une fonction qui est duale. C'est-à-dire qu'on est, d'une part, la composante militaire, et d'autre part, on est le principal outil de l'action de l'État en mer. On est ici dans la préfecture maritime. Il y a quelque chose qui est très particulier, c'est qu'en France, le représentant de l'État en mer et de tous les ministres, c'est un préfet maritime et c'est un marin qui a sa main, du coup, tous les navires d'État, qu'ils soient civils, la SNSM, mais également tous les navires de la marine. Donc la marine, en fait, elle a en permanence ces deux gros enjeux-là, qui sont d'une part d'être la marine militaire pour toutes les missions militaires, et puis d'autre part, d'assurer tout ce qui est... en mer, il n'y a pas de pompiers, il n'y a pas de SAMU, etc. Donc c'est en grande partie la marine qui contribue à ces moyens-là. D'où l'appellation de marine nationale. Donc c'est un premier enjeu qui est assez spécifique par rapport à nos camarades des autres armées. Et puis après, sur les enjeux, on va dire, qui sont plus liés aux missions militaires de la marine, le premier enjeu, c'est, on va dire, la protection des intérêts français. Donc il faut qu'on protège nos approches de toute agression ennemie pour savoir ce qui se rapproche de notre côte. En gros, c'est faire une défense le plus au large possible, essayer de repousser la menace le plus loin possible. Et puis la protection des intérêts français, c'est dans toutes nos zones économiques exclusives, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez la côte française, vous avez 12 nautiques qui sont les mers territoriales, et puis après, il y a 200 nautiques, ça fait quasiment 400 km, dans lesquels on a des droits en particulier en matière d'exploitation économique. Et donc la marine, une de ses missions prioritaires, c'est de préserver tout ça, parce que tout ce qui n'est pas surveillé aujourd'hui est pillé et revendiqué et se fait accaparer par d'autres nations. Et puis, au-delà de ça, on doit protéger les intérêts français où qu'ils soient, c'est-à-dire tous nos concitoyens un peu partout sur la planète, et puis tous nos intérêts. Ça veut dire qu'en fait, on est très dépendant du maritime, 80% de la surface du globe, mais 90% de nos approvisionnements pétroliers, ils passent par l'eau. Donc on a besoin de préserver ces artères qui sont vitales pour la France et son économie. Et la meilleure illustration, c'est aujourd'hui ce qui se passe en mer Rouge, où on voit que les outils se mettent à tirer sur tout ce qui bouge, et en fait, ça a un impact directement colossal sur tout le trafic maritime et sur la souveraineté économique de la France.
Et dans ces enjeux que vous venez d'évoquer, donc si je ne me trompe pas, en métropole, la Marine nationale s'organise autour de trois grands pôles, trois grandes bases navales qui sont Brest, Cherbourg et Toulon. Quelle est la spécificité des missions et des enjeux de la base maritime de Toulon ?
Alors la Marine nationale, effectivement, en métropole, il y a Brest, Cherbourg et Toulon, auxquels il faut rajouter tout l'outre-mer. On a également des bases à La Réunion, à Nouméa, à Tahiti, en Guyane, en Martinique, avec des moyens qui sont disposés en permanence là-bas. La spécificité de Toulon, c'est qu'en fait, c'est la porte naturelle d'entrée déjà dans la Méditerranée. On a beaucoup d'enjeux méditerranéens, mais c'est également la porte d'entrée, on va dire, vers l'océan Indien. Le canal de Suez nous y amène très vite. Donc, c'est un port qui est naturellement orienté vers les opérations, on va dire, en Méditerranée, océan Indien, qui sont aujourd'hui des champs d'action assez importants puisqu'il se passe beaucoup de choses. L'autre spécificité, c'est qu'elles sont liées à la Méditerranée, c'est que la mer Méditerranée, elle est petite. C'est que 1% de la surface du globe, mais on a 30% de notre, en gros, de nos approvisionnements en conteneurs qui y passent, et c'est quasiment 2/3 de l'approvisionnement énergétique de l'Union européenne. Donc on a une très très forte concentration en Méditerranée et très peu de profondeur stratégique. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez une menace, elle traverse la Méditerranée en quelques jours, ce qui n'est pas le cas dans l'Atlantique où vous avez des grands préavis. Ici, c'est beaucoup plus furtif, beaucoup plus soudain, et avec aussi tout un arc d'instabilité. On le voit, lors des dernières crises qui ont eu lieu, qu'en fait, c'est souvent la Libye, la Syrie, enfin voilà, c'est souvent assez proche de nos côtes. Donc c'est quand même une zone de tension assez forte, et c'est ça qui aujourd'hui oriente énormément, on va dire, l'action des navires qui sont en tout moment. Donc, au-delà de la protection naturelle du littoral, et tous ces enjeux un peu plus spécifiques à la Méditerranée.
Ok, très bien. Bah, vous recoupez la question que j'allais j'allais poser juste ensuite, peut-être pour clarifier pour nos auditeurs. Vous avez dit que vous intervenez en Méditerranée, l'océan Indien, dans ces zones. Quels sont les principaux enjeux de sécurité maritime dans ces zones-là? Vous avez dit le transport d'énergie,
ouais.
De la sécurité directe.
En fait, on a tout. On a, il y a tous les enjeux, on va dire, le transport de pétrole, tout ce qui est gaz naturel. On a les ports containers. On a quand même Suez et Gibraltar. Vous avez dans le détroit de Gibraltar, vous avez plus de 300 navires qui passent tous les jours. Un porte container aujourd'hui qui est chargé, c'est énorme. En gros, ça fait l'équivalent de la distance de Bordeaux à Paris, deux camions qui seraient au touche-touche. Quoi. Donc, en fait, on ne se rend pas compte, mais un porte-container, il transporte énormément. Donc, en fait, on a des flux colossaux qui passent sous nos fenêtres et qu'il faut protéger. On a l'arc de crise dont j'ai déjà un petit peu parlé. Et puis, j'ai dit que ça permet d'être très, très vite un peu partout. Alors, moi, j'ai servi essentiellement sur des frégates à Toulon. Et en fait, j'ai un peu tout fait. J'ai fait de la piraterie au large de la Somalie. J'ai fait du groupe aéronaval avec des porte-avions. À l'époque, on envoyait nos avions frapper en Afghanistan ou en Irak. J'ai fait beaucoup d'opérations de narcotrafic, de lutte contre le trafic de drogue, puisqu'en fait, on a quand même beaucoup de flux qui passent au large de la péninsule arabique aussi. Donc, il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à surveiller. Donc, on s'ennuie pas. Et puis, beaucoup de missions en Méditerranée aussi. Donc, il y a forcément un peu de narcotrafic. Les flux de cannabis, en gros, traversent la Méditerranée pour arriver en France. Beaucoup de tensions régionales en fonction des crises. Et puis, il y a aujourd'hui, en plus, des jeux de puissance. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'acteurs, en particulier la Russie, qui sont aujourd'hui plutôt des puissances déstabilisatrices, pardon. Et souvent tout ça se traduit en mer. À terre c'est compliqué parce qu'à terre il y a des frontières, etc. La mer c'est un espace de liberté, mais qui permet également une grammaire de la confrontation beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile quand l'océan n'appartient à personne d'y être présent et de montrer ses muscles que ce qu'on peut faire à terre. Donc on a également tout ce jeu un peu de, on va dire, d'équilibre, des tensions et d'observation mutuelle qu'on ressent énormément en mer. En particulier en Méditerranée, puisque la mer Méditerranée, vous voyez, ça ouvre naturellement sur la mer Noire, qui est aujourd'hui une zone de conflit.
La France est membre de l'OTAN. Donc, vous parliez des puissances, des jeux de puissance. Ces jeux de puissance peuvent avoir lieu au sein même de l'OTAN et en tout cas des alliances avec, pardon, des jeux de puissance avec les alliés de la France. L'OTAN actuellement est une organisation qui pourrait voir le soutien des États-Unis devenir moindre, en tout cas diminuer en cas d'élection de Donald Trump. Du coup, je souhaitais savoir si l'Europe allait du coup augmenter sa contribution et comment la marine collaborait avec les autres forces internationales et comment cela déterminait ses missions nationales.
En fait, la marine nationale est une marine très otanienne. En fait, tous nos partenaires européens sont quasiment tous membres de l'OTAN. En fait, l'OTAN a offert une interopérabilité qui est assez exceptionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'est travaillé très facilement en bilatéral avec des Allemands, des Espagnols, n'importe quoi. Parce qu'on est tous au sein de l'OTAN, on parle la même grammaire, les mêmes codes, et on a du matériel qui est compatible. Le poids des États-Unis au sein de l'OTAN, ça, c'est une décision politique. Dans tous les cas, la France reste un acteur majeur de l'OTAN, s'y investit d'ailleurs de plus en plus, parce qu'on se rend bien compte de la nécessité de travailler en coalition aujourd'hui. C'est-à-dire que la France, elle seule, peut pas assurer la défense de toute l'Europe, et c'est le cas pour chacun de nos pays partenaires. Donc, ça reste quand même un formidable creuset pour mettre nos forces en commun, ce qui n'empêche pas en parallèle aussi de faire des missions purement européennes. La piraterie, la mission Atalante, c'était une mission européenne qui fonctionne bien. Ce qui s'est monté là, au large du Yémen, la mission Aspides qui vient d'être montée, c'est également une mission européenne de sécurisation du trafic. Et puis on en a une troisième qui s'appelle, on en a une qui s'appelle Agenor, qui elle est dans le détroit d'Ormuz, au large de l'Iran, qui est aussi une mission européenne de sécurisation du trafic maritime. Et on a l'opération Irini, qu'on fait plus proche en Méditerranée, qui là, pour le coup, vise à faire respecter l'embargo sur les armes en Libye. Donc on a quand même déjà pas mal de petits échantillons de missions européennes qui fonctionnent, mais qui n'ont pas la même ampleur, qui n'ont pas le même dimensionnement, et qui sont souvent plutôt des missions de protection du trafic maritime, qui du coup, dans le spectre du conflit militaire, sont souvent plutôt dans le bas du spectre. L'OTAN reste quand même un formidable outil pour le combat de haute intensité, on va dire en coalition. Il permet de mettre en place ses moyens en commun. Après, vous évoquiez Donald Trump et le possible désengagement des États-Unis. Oui, on a déjà eu le débat sur les 2% il y a quelques années, et toutes les nations européennes ont bien conscience que les temps changent et qu'il faut faire un effort supplémentaire. Ce qui va y avoir le cas en France. On a une loi de programmation militaire qui est plus ambitieuse que les précédentes, justement, pour accompagner cet effort.
Effectivement, les armées françaises font face à des enjeux de maintien de leur capacité opérationnelle, mais aussi à ceux de pouvoir répondre aux nouvelles menaces. Donc, vous évoquiez la loi de programmation militaire 2024-2030. qui acte un effort budgétaire important, le plus élevé depuis les années 60. Comment cela va se traduire concrètement pour la Marine nationale et pour vous à Toulon ?
Alors, la loi de programmation militaire, c'est 413 milliards d'euros sur 7 ans. C'est vraiment un effort colossal. Comment ça se traduit ? Alors déjà, il y a une bonne part de renouvellement des moyens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un porte-avions Charles de Gaulle et qu'il faut déjà mettre sur les rails le porte-avions nouvelle génération, son successeur. On a les sous-marins nucléaires lanceurs d'engin à Brest qu'il faut aussi remplacer. Donc on a tout ça, c'est vraiment des programmes très dimensionnants, très structurants, qui nécessitent beaucoup de crédits. Donc tous ces programmes-là sont possibles grâce à la LPM. Et puis ça va de manière générale, on termine le renouvellement capacitaire de nos moyens. C'est-à-dire que la marine ces dernières années a connu une modernisation assez rapide de moyens qui étaient vieillissants. Ça permet de le terminer. C'est-à-dire qu'en gros, on a beaucoup de frégates qui commencent à être assez modernes, qui remplaçaient des frégates qui avaient 30, 40 ans. Ce mouvement-là va se poursuivre, ça permet d'avoir des nouvelles capacités qu'il faut remplacer dans le domaine de la guerre des mines, des patrouilleurs, des nouvelles frégates, le porte-avions, les sous-marins. Comment ça se traduit à Toulon ? Déjà, ça fait des nouveaux moyens qui arrivent. Typiquement, le porte-avions de nouvelle génération qui va arriver, c'est quelque chose de dimensionnant, parce qu'il est quasiment deux fois plus gros que l'actuel. Donc il y a tout ce côté nouveaux moyens, et puis il faut aussi mettre en place toutes les infrastructures pour accueillir ces nouveaux moyens. Ça veut dire qu'on ne soutient pas de la même manière un bateau qui a été construit dans les années 80 d'un bateau qui sera construit en 2020. Donc il faut accompagner tout ce mouvement-là, ça veut aussi dire beaucoup de travaux d'infrastructures, de rénovation énergétique, etc. Dans tout ce qui est système de transmission, ça évolue très très vite. Enfin, vous avez tous des téléphones qui ont des durées de vie assez limitées. Vous imaginez bien que quand on met de l'informatique en place sur un bateau au neuvage à la construction, 20 ans après, il faut tout refaire. Et donc on a ce besoin aussi de moderniser tous les outils qu'on a déjà. Et puis, on a des infrastructures qui sont un peu vieillissantes. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire et cette loi de programmation militaire va permettre de faire ça. Elle va permettre de renouveler les moyens, d'améliorer l'entretien de ce qui se fait actuellement pour mieux l'exploiter et puis de continuer à progresser dans l'innovation technologique parce qu'on a des programmes structurants de long terme. On a aussi besoin de garder, de conserver la capacité, on va dire, agile à réagir très vite pour très très vite prendre une nouvelle technologie intéressante et l'adapter au monde militaire. Typiquement, ce que fait l'Ukraine aujourd'hui avec des drones civils, on se rend compte qu'en très peu de temps, ils développent des nouveaux systèmes d'armes à la base de technologies civiles existantes et accessibles facilement. Ça, on a besoin de conserver ça aussi. Au-delà des grands programmes structurants, on a besoin de garder cette petite capacité agile à très très vite s'adapter à l'environnement.
Et justement, on pourrait poser la question de l'essor de l'intelligence artificielle. Alors, dans le monde civil, en tout cas, ça a un énorme impact actuellement. Comment fait-on pour rester à la pointe de la technologie et des nouvelles dimensions sur des navires qui ont plusieurs années? Oui. Comment est-ce qu'on les maintient à la pointe de la technologie?
C'est la vraie difficulté qu'on a, c'est de maintenir une cohérence d'ensemble en permanence. C'est-à-dire qu'il faut rester cohérent dans notre format d'armée. C'est-à-dire qu'en fait, la vérité d'aujourd'hui n'est pas forcément celle de dans deux ans et pas celle d'hier non plus. Donc, on a quand même besoin d'avoir une cohérence sur le long terme dans notre format d'ensemble. Et puis, ce besoin de s'adapter en permanence et d'avoir ce qui se fait de mieux en termes de technologie. Pour ça, du coup, les armées et la marine mettent en place, du coup, on suit la technologie du moment, c'est-à-dire qu'on a par exemple une frégate multimission, la Provence, qui pour la première fois a été conçue avec un data hub embarqué. Donc, c'est la première fois qu'on met en place comme ça des data hubs sur les bateaux qui permettent de l'exploitation de données beaucoup plus.
Un data hub, c'est un ordinateur qui traite des données.
C'est ça, une capacité de traitement de la donnée qui est colossale. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bateau en mer ou un avion ou un sous-marin, il génère un flux de données qui est colossal. Parce qu'on a plein de senseurs, on voit tout ce qui se passe, on enregistre tout. La vraie difficulté est dans l'exploitation de ces données derrière, un peu comme partout d'ailleurs. Et donc l'idée du data hub, c'est ça, c'est réussir à analyser très très vite, de manière la plus automatisée possible, pour accélérer la rapidité de décision. Quand vous avez un petit mobile qui vous arrive à toute vitesse sur la tête, en gros, un missile aujourd'hui qui arrive sur un navire, ça vous laisse moins de 30 secondes pour réagir. Finalement, les quelques secondes qu'on va grappiller dans l'exploitation des données, elles sont vitales. On a ce besoin en permanence de se maintenir au goût du jour. Donc, on s'adapte dans les nouvelles technologies. On met en place également des structures, c'est-à-dire que la marine, elle a ici à Toulon un centre d'expertise des programmes navals qui cherche aussi en permanence avec les industriels à développer des nouvelles technologies ou à faire des expérimentations de nouvelles choses. Et puis, on a créé un centre de service de la donnée et de l'intelligence artificielle de la marine en 2019, qui est également hébergé à Toulon. Dont le but est justement de développer ces expérimentations et essayer de passer ensuite à l'échelle de production pour tout ce qui peut bien fonctionner pour le développer dans la marine. Donc on a en permanence ce souci d'essayer de rester bien, on va dire, bien plugué à ce qui se fait en matière de nouvelles technologies, d'autant plus qu'on s'est vite rendu compte qu'aujourd'hui, On appelle ça le multimilieu multichamp, c'est-à-dire qu'avant, nos engagements, on les voyait un peu comme sous la mer, sur la surface et en l'air. Aujourd'hui, on parle de multimilieu multichamp parce qu'il y a le monde cyber, il y a le spatial, il y a la sphère informationnelle qui joue aussi énormément. Enfin, on se rend bien compte que tout ça est très imbriqué et nécessite d'être à l'affût dans chacun de ses domaines.
Et pour remettre à niveau les bâtiments, j'imagine que cela nécessite de les faire revenir à la base. Il me semble que le Charles de Gaulle a été arrêté un peu moins d'un an et qu'il est reparti récemment. Comment logistiquement on organise la réparation à mi-vie d'un porte-avions et comment gérer les enjeux politiques en enlevant le seul porte-avions français?
Alors au-delà du porte-avions, cette remise à niveau, cette régénération des bateaux, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est-à-dire qu'en fait, des arrêts techniques, ça rythme la vie des navires parce qu'en fait, il y a le besoin de se remettre à niveau technologiquement, il y a aussi le besoin de réparer. Et si vous avez une voiture et que vous roulez pendant 6 mois d'affilée, forcément, il y a un moment, ça commence. Et on a exactement le même problème pour un bateau. C'est-à-dire qu'en fait, en plus, ils sont sur un environnement salin qui est très agressif. Donc, on a besoin de faire un passage au stand régulier pour entretenir, redonner du potentiel et remettre à niveau. Donc, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement. Chaque navire a au moins tous les ans un arrêt technique pour se remettre à niveau. Et en fait, dès que vous avez un navire qu'on arrête, forcément, d'un point de vue capacitaire, c'est une perte. C'est-à-dire que quand vous avez 10 frégates, que vous en arrêtez 2, vous savez que vous devez remplir les missions avec moi. Mais ça fait partie du mode de fonctionnement normal de la marine. C'est-à-dire que notre format, il est fait normalement pour être capable de durer malgré, on sait que quand on a tant d'unités, elles sont pas toutes déployables. Le porte-avions, c'est un peu ça, sauf qu'évidemment, c'est une capacité unique. C'est-à-dire que ces arrêts techniques, ils sont plus anticipés qu'ailleurs, parce qu'ils sont aussi plus complexes, et on sait qu'on va se priver d'une certaine capacité pendant un temps donné, même si on s'en prive pas intégralement. C'est-à-dire qu'en fait, le groupe aéronaval embarqué, tout ce qui est, en gros, tous les avions de chasse qui sont sur le porte-avions, quand le porte-avions est en arrêt technique, ils peuvent continuer à opérer depuis la Terre. Clair de rien, on arrive quand même à maintenir un minimum de qualification, de capacité et d'entraînement pendant les phases d'arrêt technique prolongé du porte-avions.
Les enjeux environnementaux font partie des sujets sociétaux importants. On en parlait dans l'introduction tout à l'heure. L'État a lancé le programme Stratégie Biodiversité 2023 pour utiliser les forces armées dans la protection de la biodiversité. Quel est le rôle de la Marine nationale dans ce programme, notamment dans la protection de l'environnement marin, la préservation des écosystèmes côtiers?
La Marine est un acteur majeur là-dessus parce que j'ai déjà parlé de l'aspect préfecture maritime. C'est-à-dire que moi, typiquement, dans mon travail, on a différentes casquettes. C'est nous qui avons la réglementation pour préserver l'environnement marin en Méditerranée, et donc il est évident que la marine se doit d'appliquer, de faire appliquer ces réglementations. En fait, on est tellement impliqué, tellement imbriqué, que ça reste un enjeu crucial. Après aussi par intérêt, les marins qui viennent dans la marine, c'est qu'ils aiment l'océan, donc ils sont également soucieux de sa préservation. Donc la marine est fortement impliquée, parce qu'en fait en mer, on est au large, on est rapidement les seuls acteurs. C'est-à-dire qu'un navire pollueur qui viendrait dégazer à 180 nautiques de Toulon, globalement, c'est principalement des moyens de la marine qui vont le détecter et qui vont intervenir. Donc en fait, on est en permanence pris dans ces missions-là. C'est tellement vaste que je sais même pas comment dire. Mais c'est vrai à Toulon, c'est vrai sur chacun des océans, c'est particulièrement vrai outre-mer. Outre-mer, en gros, ce sont essentiellement les navires de la marine qui assument toutes les missions. C'est-à-dire qu'on a des moyens anti-pollution, tout ce qui est barrage flottant, etc., c'est mis en place par des moyens de la marine ou des moyens affrétés par la marine. Tout ce qui est détection de la pollution, c'est pareil. On a des surveillances satellitaires, on a des aéronefs qui font des survols réguliers pour aller s'assurer que nos approches sont propres. Dans la police des pêches, on est également particulièrement investi. Ça veut dire que les navires de la marine, dont la gendarmerie maritime qui dépend de la marine nationale, ont des missions de contrôle des pêches. Et on a même créé très récemment des aspirants volontaires biodiversité, un contrat d'un an et des gens qui sont spécialisés là-dedans et qu'on affecte sur des petits bateaux outre-mer qui vont dans des coins un peu particuliers, avec des écosystèmes très très particuliers, pour justement les étudier, les analyser, etc. Donc, la préservation de l'environnement marin, pour nous, c'est au cœur des enjeux. D'une part, parce que c'est notre milieu naturel et qu'on doit le protéger. Et puis d'autre part, on se rend bien compte que la sécurité environnementale est aujourd'hui peut être très rapidement une source de conflit. Ça veut dire que quand vous avez des problèmes de stock de poissons, très rapidement, vous avez des flottilles de pêche étrangères qui peuvent venir piller des eaux d'un pays, d'un État. Ça peut très vite dégénérer et être source de conflit. Donc on le fait parce qu'évidemment, il faut protéger l'environnement et puis aussi parce que d'un point de vue sécuritaire, ça a très rapidement un impact.
Pour clore cet entretien, j'aurais une dernière question en rapport avec donc la ligne éditoriale de notre émission, à savoir l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde. La Marine nationale a besoin de disposer de très nombreuses compétences au sein de son personnel et de renouveler son personnel aussi. Quelles actions avez-vous mises en place vis-à-vis des écoles au sens large pour attirer des talents, mais aussi pour favoriser l'insertion des jeunes? Des partenariats avec les grandes écoles ont-ils été développés et qu'apporte-t-il à la Marine nationale?
Alors, pour répondre à tout ça, ce que ça apporte à la Marine, je vais commencer par la dernière question. La Marine, elle recrute très, très largement parce que globalement, chaque année, il nous faut 3 à 4 000 jeunes qu'on recrute. Et on recrute en gros du niveau 3e jusqu'au bac plus 5. Donc en fait, on recrute très très largement et dans énormément de métiers. En fait, on peut faire tous les métiers dans la marine, sauf peut-être conducteur de char, mais sinon, enfin, vous avez les cuisiniers, vous avez les informaticiens, on a vraiment tous les métiers du monde à bord des bateaux. Donc on a une vraie diversité. Et c'est pour ça que le fait d'aller d'avoir des gens qui viennent de tous les horizons, de toutes les écoles, c'est une vraie richesse pour la marine parce que ça permet une c'est ça qui la fait vivre en fait. Ça l'irrigue avec énormément de talents qui viennent d'un peu partout. Et la marine a de très nombreux partenariats avec des écoles de commerce, avec des écoles d'ingénieurs. On est présent sur beaucoup de salons. Je crois qu'il y a plus de 110 partenariats entre la marine et l'éducation nationale. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important. Évidemment, je vais faire la publicité pour ma boutique, mais c'est vraiment quelque chose de. Enfin, ça reste une expérience exceptionnelle en fait. Et je trouve que le gros avantage de la marine. C'est qu'elle vous offre. Alors, j'ai bien conscience que tout le monde ne fait pas l'essai pour s'engager dans la marine arrière, même si on peut toujours être recruté sur titre. Mais il y a également d'autres contrats qui sont intéressants. La marine offre des contrats de volontaire aspirant qui durent un an, qui est un peu comme une année de césure et qui permet souvent on a souvent des gens qui sont plutôt dans des grandes écoles qui font une césure d'un an et qui leur permettent de vivre une expérience pendant, on va dire, ces 10 mois, en gros, embarqués sur un bateau avec souvent, on peut leur confier de grandes responsabilités. Il y en a qui se retrouvent chefs de car, c'est-à-dire qui se retrouvent à diriger le bateau, c'est-à-dire que c'est eux qui sont seuls aux commandes pendant 4 heures, pendant la durée de leur car, sur des navires, qui soient des grosses frégates ici à Toulon. Parfois, c'est des. Je viens de Polynésie, j'étais en Polynésie française juste avant, j'avais un jeune volontaire aspirant qui se retrouvait chef de car à Tahiti, en Polynésie, avec des missions à l'étroit de Taïwan. Enfin, ça reste quand même quelque chose de très, très extraordinaire. Et la marine offre tout ça, soit. Pour du recrutement, de l'engagement, mais également via les partenariats et puis via ces contrats courts qu'elle propose pour se faire connaître parce qu'on n'est pas l'armée la plus connue et puis voilà, pour offrir des expériences assez uniques.
Un grand merci, capitaine Pierre-Louis Josselin, de nous avoir apporté votre éclairage sur ces différents sujets et de nous avoir fait découvrir plus en profondeur les enjeux actuels et futurs de la Marine nationale. Cette émission était la deuxième étape de notre Tour de France 2024 de Rêve FM en partenariat avec Radio KPMG. Nous nous retrouvons, chers auditeurs, avec grand plaisir pour la prochaine émission à Aix-en-Provence où nous interrogerons Cécile Bosseau, docteur en sciences du management et professeur à l'université Aix-Marseille. À très bientôt sur les ondes.
Café et chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.